Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un homme qui a choisi le silence, un écrivain qui a décidé de ne plus s'exprimer publiquement depuis 37 ans exactement. Comme Salinger, l'Américain, Beckett, l'Irlandais, l'auteur tchèque Milan Kundera a pris la décision de vivre loin des caméras et des micros. Une disparition volontaire annoncée presque entre les lignes dans son ultime passage à la télévision française en 1984, dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, où le romancier exilé disait cela.
Quand l'intimité qui, jadis, était une valeur, n'est plus une valeur. On dévalorise complètement l'intimité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la personnalité humaine sans l'intimité, sans sa vie privée? Au moment quand la vie privée n'est plus la vie privée, la personnalité humaine s'évapore.
Intimité, vie privée sont donc devenues les priorités de Milan Kundera, renvoyant ses lectrices et lecteurs à son œuvre, soit une vingtaine de livres, de son premier roman La plaisanterie en 1967, en passant par L'insoutenable légèreté de l'être, jusqu'à L'immortalité en 1990, cycle écrit en tchèque, et De la lenteur en 1995 jusqu'à La fête de l'insignifiance en 2014, écrit eux directement en français, sans oublier le théâtre et tous les essais critiques d'importance tels que L'art du roman ou encore Une rencontre. Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Journaliste, vous ne vous êtes pas laissé arrêter par le mutisme de Kundera et à la suite de votre enquête parue dans le journal Le Monde en feuilleton, vous publiez aujourd'hui, à quelques heures des 92 ans de l'écrivain, d'ailleurs né le 1er avril 1929 à Brno, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, ce récit sous le titre « À la recherche de Milan Kundera » aux éditions du Sous-sol. Qu'est-ce qui motive en premier cette quête? Est-ce que c'est le fait que vous le lisez et l'aimez depuis longtemps ou le rêve d'être peut-être la première à l'interviewer depuis des décennies puisque Kundera, c'est un peu le Graal de tous les journalistes?
Alors, je crois que ça vient d'un coup de cœur que j'ai entre 20 et 25 ans. Je me souviens très très bien de cette émission d'Apostrophe dont nous venons d'entendre un extrait. Je me souviens de la voix un peu languide de Milan Kundera. Je me souviens de ses yeux bleus. Je me souviens de son accent qui ressemblait un peu aux accents polonais, l'accent tchèque. Et je me souviens d'un coup de cœur presque télévisé. Et je revendique au fond un peu mon statut de midinette. C'est-à-dire que tout d'un coup, je viens de lire L'insoutenable légèreté de l'être, qui va être son premier best-seller mondial. C'est l'un des écrivains aujourd'hui les plus lus au monde. Et je vois cet homme à la télévision. Et j'ai comme une sorte de coup de cœur de lectrice. Et quand j'ai eu la chance de devenir journaliste, je m'étais dit, si un jour je peux faire une enquête et rencontrer Milan Kundera, eh bien, je tenterai ma chance.
Et en effet, ce rêve d'adolescente, vous le réalisez à travers ce livre. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de curiosité autour de Kundera aujourd'hui, qui est sans doute renforcé à notre époque, qui valorise la société du spectacle. Donc, il est une exception. Il suscite presque l'inverse de ce qu'il voudrait être, anonyme. Et il en dit beaucoup aussi sur le statut de l'écrivain aujourd'hui.
Oui, quand on écoute le petit extrait d'Apostrophe que vous avez choisi, on voit qu'il fait l'éloge de l'intimité. Moi, je n'ai pas cherché à rentrer dans l'intimité de Milan Kundera. C'est sa vie absolument romanesque qui m'a fascinée. Je voyais souvent cet écrivain avec toujours aussi magnifique, avec ses cheveux blancs, qui se promenait avec sa femme Vera, tout près du carrefour de la Croix-Rouge et à Paris, dans le entre le 7e et le 6e arrondissement. C'est vrai que je n'osais pas les aborder parce que il m'intimidait trop. Je suis intimidée par les écrivains et je me disais, au fond, si je l'ai aimé autant dans les années 80, c'est aussi parce que je n'ai pas aimé les années 80. Il était à l'antithèse de cette décennie où tout était permis, où il y avait le culte du bling-bling, c'était l'époque de la Rolex de Séguéla, c'était l'époque de Bernard Tapie, c'était l'époque du disco, et lui, il était à l'inverse de ça. Il fait l'éloge de l'intimité, et c'est ça qui est prenant et fascinant dans ses livres, c'est-à-dire que dans cette société communiste qu'il a décrite, eh bien, qu'est-ce qui reste aux hommes, quand tout est observé, eh bien, il reste l'intimité.
Et en même temps, est-ce qu'il exprime un jour, Milan Kundera, la raison pour laquelle il décide de se taire ?
Non, et c'est là que réside son mystère. Il y a plusieurs explications. Soit il se dit vraiment, il est phobique du monde, il est d'ailleurs un peu agoraphobe, hein, et cette fameuse photo qui est prise sur le plateau d'Apostrophe où il met sa main, comme Philippe Roth l'a fait d'ailleurs, sur son visage pour pas qu'on le voie, est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque ou est-ce que il se cache parce qu'il a quelque chose à cacher? C'est l'autre interrogation. Ceux qui se cachent sont souvent les gens qui ont des secrets.
Alors justement, c'est un mystère. Est-ce que ce qui vous motive aussi, vous, Ariane Chemin, ce sont ces non-dits, ce sont peut-être les secrets d'une existence qui, par principe, a été marquée par la méfiance et la défiance du système communiste dont il est issu et l'envie peut-être de trouver des archives inédites qui pourraient éclairer l'œuvre?
Je me suis d'abord dit, cet écrivain a une vie folle. C'est-à-dire qu'il a traversé 2 siècles. Il a connu le monde communiste avant la chute du mur de Berlin. Il a connu 2 pays. Il a été tour à tour tchèque, puis apatride, puis français, et aujourd'hui tchèque et français. C'est pas banal dans une vie. Et je trouvais qu'il y avait à la fois quelque chose de fascinant, historiquement, et puis aussi quelque chose d'un peu tragique. Parce que, à force de se promener comme ça entre 2 pays, 2 langues, eh bien, parfois, on ne sait plus très bien où on habite. Et c'est un peu ça qui se passe à la fin de la vie de Milan Kundera. C'est-à-dire que il hésite entre 2 langues, entre 2 pays. Il aurait voulu retourner avec Vera, sa femme, habiter peut-être à Brno. Il ne l'a pas fait parce que, on le verra sans doute, il n'est pas forcément très bien perçu et accueilli dans son propre pays, là où il a grandi. Donc, il y a quelque chose d'un peu triste et tragique dans cette destinée, dans ce destin de Milan Kundera qui m'intéressait.
Et donc, dans votre travail, vous ne rencontrez pas Milan Kundera, mais en revanche, vous êtes en contact avec sa femme actuelle, sa 2e épouse d'ailleurs, Vera Kundera, une ancienne vedette de la télévision tchèque, ravissante d'ailleurs, avec un visage très fin, les cheveux très courts, bruns, comme on peut le voir sur certaines photos qui illustrent votre livre. Comment est-ce qu'elle a réagi à votre demande d'interview, Ariane Chemin? Parce qu'elle doit être submergée de tous les côtés.
Je crois plus qu'elle soit submergée parce que a priori personne ne l'appelait parce que tout le monde avait compris qu'il ne parlerait pas. Moi, l'idée, c'était pas du tout d'avoir un entretien exclusif, c'était au moins de le voir une fois dans ma vie. Mais d'une certaine manière, j'ai été comblée puisque qu'est-ce que je fais quand je rencontre Vera Kundera dans une terrasse? C'était l'époque encore où on pouvait prendre des cafés, où le Covid n'était pas arrivé.
L'époque bénie,
on prend un café et je crois que je ne lui demande vraiment jamais « est-ce que je pourrais rencontrer votre mari ?» parce que pour moi, c'est impossible. Donc peut-être que j'ai pas une démarche journalistique comme je l'ai d'habitude quand je fais des enquêtes plus serrées. Là, tout d'un coup, j'ai une forme de timidité devant l'écrivain. Donc je ne lui demande pas explicitement de le rencontrer et elle me dit pas explicitement « vous ne pourrez pas le rencontrer ». Et en revanche, elle se met à jouer avec moi jusqu'à la fin d'ailleurs, puisque je ne le rencontre pas, mais tout à la fin de mon enquête du Monde, elle m'appelle au téléphone, Vera Kundera, et elle me dit… Voilà, elle me parle très gentiment. Et tout d'un coup, son mari attrape le téléphone et se met à me parler. Et j'ai encore dans l'oreille, évidemment, les mots qu'il a prononcés. D'abord parce qu'il a cet accent merveilleux. Et il me dit, Ariane, c'est Milan. Je voulais vous dire... Et il commence à me dire des choses très douces. Et là, à ce moment-là, Vera Kundera, elle lui prend le téléphone. Et c'est vrai que je raconte cette anecdote à la fin du livre, d'abord parce que c'est la fin de ma quête, et aussi parce que ça interroge aussi sur le statut de la femme de l'écrivain. Elle peut peut-être aussi, elle aussi, le protéger des autres. Peut-être qu'elle le protège plus des autres qu'il se protège lui-même des journalistes. Ça ouvre plein de questions. Et c'est vrai que Vera Kundera, qui n'était pas le sujet premier de mon livre, au fil de mon enquête, s'est imposée comme un vrai personnage. Et c'est vrai que je l'ai trouvée... brillante, attachante, drôle, pleine de cet humour typique de l'Europe, j'allais dire de l'Europe de l'Est, c'est tout le terme que déteste Kundera, mais cet humour tchèque typique, à la fois ironique, et j'ai compris en parlant avec elle à quel point elle avait inspiré son mari.
Ironique, en effet, par exemple, quand elle signe ses textos de Agence 007. Donc, il y a cette ambiance d'espionnage qui était très présente, précisément à cette époque où il vivait encore en Tchécoslovaquie. Parce que ce qu'on découvre dans votre livre, Ariane Chemin, c'est que ils sont sur écoute, que l'État aimerait bien qu'ils quittent le pays, alors qu'ils ne sont pas dissidents. C'est ça qui moi, me frappe. Donc, pourquoi cherche-t-on à les faire sortir de Tchécoslovaquie? Parce qu'il a écrit des livres? Parce qu'elle est présentatrices à la télévision, donc qui sont associées au milieu intellectuel qui pourrait être subversif. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que il y a ce qu'on appelle un congrès des écrivains durant lequel Milan Kundera prend la parole, et il n'est pas l'un des principaux opposants au régime. Hein. Au contraire, il a été d'abord communiste lui-même. Il a fait l'éloge du système, du régime communiste. Ça, on le sait pas forcément en France. Il a écrit des poèmes un peu pompiers et des textes à la gloire du régime communiste. Et puis, à la fin, au milieu des années 70, il tient des propos plus critiques sur le régime. Mais il n'est pas un dissident, c'est-à-dire qu'il n'est pas un Vaclav Havel. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui est difficile pour lui aujourd'hui, parce que moi ça m'a frappé quand j'ai été à Prague, c'est cette blague qu'on me racontait à chaque fois que je parlais de Milan Kundera. On me disait Vaclav Havel a fait de la prison, il est devenu président, et Milan Kundera a écrit des livres et il est parti en France, hein. Et voilà, donc il y avait parfois ce reproche que les plus anciens de son pays peuvent lui faire. Mais en fait, pour lui, s'il déteste autant les journalistes, je pense, c'est que ça lui rappelle évidemment ce système d'espionnage. Quand Vera Kundera me donne des renseignements en me disant je suis au 007, et quand je la rencontre la première fois à la table de ce café parisien où elle me dit les journalistes, je me souviens, ça me frappe, elle me prend mon cahier, elle gribouille dessus, elle me dit les journalistes sont des chiens qui devraient être jetés en prison. Puis après elle éclate de rire, mais elle utilise les mots qu'on employait dans ces années-là dans son pays, donc c'est ça qui me frappe.
Alors pour en finir avec cette première partie de vie, je rappelle donc évidemment après l'entrée des chars russes à Prague en 1968, un épisode d'ailleurs qui va apparaître beaucoup plus tard dans son roman L'insoutenable légèreté de l'être, qui va être adapté au cinéma. Les événements s'enchaînent, il est exclu du parti en 1971, son œuvre est censurée, et en 1975, ils finissent par partir en voiture vers la France, très légalement, où il va donner des cours d'abord à Rennes, puis à Paris, jusqu'en 1979, où on lui retire sa nationalité, une nationalité qui lui est restituée en 2019. Nous y reviendrons. Mais en attendant de poursuivre avec vous ce portrait de Milan Kundera, je vous propose, Ariane Chemin, d'entendre un morceau de musique qu'il affectionne et que vous citez dans votre livre, une composition de la Renaissance de Clément Jeannequin, « Le choix des oiseaux ».
Ce premier jour de mes maisons, ce premier jour de mes
Et sur Le chant des oiseaux de Clément Jeannequin, un titre très apprécié par Milan Kundera, nous poursuivons sur RFI dans Littérature sans frontières cette conversation avec Ariane Chemin, qui précisément est allée à la recherche de Milan Kundera, titre de son récit paru aux éditions du Sous-Sol, une enquête auprès de ses proches, de sa femme Vera, de ses amis, qui restent néanmoins très discrets, ses éditeurs, ses traducteurs. Et là d'ailleurs, on en arrive à une question passionnante, son passage à l'écriture non plus dans son tchèque maternel, mais directement en français. Racontez-nous ce qui s'est passé, Ariane Chemin. Pourquoi Milan Kundera a-t-il changé de langue ?
Quand il arrive en France, en 1975, d'abord, il ne parle pas très bien le français. Et on le voit même dans l'émission d'Apostrophe en 84, il a encore un français un peu hésitant. Hein. Et donc, il dicte ses livres à sa femme Vera. Et puis après, ils sont traduits. Il a d'ailleurs des tas d'aventures avec ses traducteurs. Le premier traducteur était quasiment un espion russe qui
déformait ses récits.
Qui déformait totalement ses récits. Et un jour, il a rendez-vous pour un entretien avec Alain Finkielkraut qui lui dit « Ah, je trouve quand même que vous avez changé de style. » Et là, tout d'un coup, il se fait traduire la traduction en français de ses propres livres et il comprend qu'en fait, il a été trahi. Et cette obsession de la trahison, elle est très forte chez Kundera. Donc, au fond, son rêve ultime sera d'écrire directement en français. Ça lui évite ce passage par une personne inconnue, même si très vite, il rencontre le traducteur de son choix en qui il aura toute confiance. Mais en fait, on voit bien que à travers ses livres, c'est vraiment ce qu'il y a de tragique dans l'œuvre de Kundera, c'est que il finit par écrire en français qui n'est pas sa langue maternelle et dans laquelle il est quand même beaucoup moins à l'aise. Et ce n'est pas une offense de le dire, puisque je ne suis pas critique littéraire, mais beaucoup de critiques littéraires l'ont dit avant moi. C'est vrai que ses livres en français sont souvent considérés comme plus faibles que ses livres qui sont écrits dans sa langue natale et qui ont été traduits en français. Et on voit bien combien c'est compliqué pour Milan Kundera, qui d'ailleurs, quand il arrive à la faculté de Rennes, passe des temps infinis à préparer ses cours. Il donne des cours sur la littérature des pays d'Europe centrale. Et c'est à ce moment-là, raconte sa femme, que ses cheveux se mettent à blanchir parce qu'il passe des nuits entières à écrire ses textes. Il n'est pas très à l'aise en français. Il doit donner ses cours en français. Ce n'est pas facile pour lui.
Et en même temps, ça en dit beaucoup sur le contrôle qu'il a besoin d'exercer dans la vie et sur son œuvre, parce que effectivement c'est après cette trahison de ce traducteur français qu'il a voulu reprendre la main, et c'est ainsi qu'il écrit en 1995 La Lenteur. Comme vous le disiez, les critiques littéraires sont en France pas forcément enthousiastes. Ils ont l'impression que Milan Kundera a peut-être perdu quelque chose en changeant de langue. Et là, lui qui a trouvé en France une terre d'accueil, une nationalité, en 1981, une langue, des soutiens, il décide que ses romans vont être publiés ailleurs d'abord, c'est-à-dire en Espagne. C'est le cas de L'ignorance, en 2000, qui paraît 3 ans avant la France, et en Italie, La fête de l'insignifiance, en 2013, 1 an avant le territoire français. Est-ce qu'il y a un désamour entre Kundera et la France?
Il y a un petit désamour à ce moment-là, et c'est une stratégie très calculée avec Antoine Gallimard, son éditeur. D'abord, je tiens à raconter qu'il est très lié à Antoine Gallimard, tout simplement parce que le père d'Antoine Gallimard venait le voir avant que le régime communiste ne tombe, pour l'aider un peu en catimini. Et ça, je l'ai découvert effectivement en allant à Prague, en ouvrant le dossier des archives auxquelles j'ai pu avoir accès, et qui était d'ailleurs pour moi quelque chose d'incroyable, parce que c'est un dossier, par exemple, que le couple Kundera ne connaît pas, dans lequel je me suis retrouvée plongée pour le coup dans leur vie, avec ce sentiment extrêmement désagréable d'avoir accès à une intimité qui ne m'était pas réservée. Parce que évidemment, je n'ai pas écrit le quart de ce que je pouvais, de ce que j'ai lu dans ce dossier-là, ce serait indécent, parce que c'est vraiment leur intimité. Et ça n'est pas possible. Bon. Et donc, les Gallimard ont toujours aidé Milan Kundera, donc il est très fidèle à Gallimard, et ils avaient élaboré cette stratégie avec Antoine Gallimard, en disant, puisque l'accueil n'est finalement plus aussi enthousiaste en France, eh bien, on va sortir d'abord à l'étranger. Les critiques seront peut-être meilleures, mais c'est une stratégie qu'utilisent beaucoup de grands écrivains. Par exemple, Michel Houellebecq, son grand truc, c'est aujourd'hui des sorties mondiales. Il veut sortir le même jour dans tous les pays.
Mais
chacun
ça
se comprend,
une sortie mondiale.
Oui.
Mais 3 ans entre l'Espagne et la France.
Oui, mais c'est une stratégie vraiment commerciale, mise au point avec sa propre maison d'édition. Et de toute façon, ça montre bien aussi que Kundera, il contrôle tout, y compris la sortie de ses livres, la date de sortie de ses livres, les couvertures qu'il redessine, dessine, les traductions. Et puis aussi, à chaque traduction ou chaque réédition de ses livres, il gomme aussi, parfois, des personnages, des scènes, comme ont pu le faire les communistes sur des photos officielles. On faisait disparaître tel personnage politique. Ça, c'est quand même toute l'esthétique du totalitarisme russe ou tchèque. Et lui, d'une certaine manière, il le reproduit dans ses livres. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très attentionné. C'est parce que des lecteurs très attentionnés ou des spécialistes de Kundera m'ont dit « Regardez, c'est bizarre, tel personnage a disparu. » Ou il faut avoir l'œil pour se rendre compte qu'il a fait une sorte de petit ménage dans ses livres. Et d'ailleurs, quand toute son œuvre est publiée dans la Pléiade...
Voilà, en 2011.
En 2011, il contrôle tout. Tout, il n'y a quasiment pas d'appareil critique. C'est vraiment une mainmise totale sur son œuvre qu'il voudra maîtriser du début à la fin.
C'est une façon de dire « c'est moi le patron ».
Oui, sans doute.
Donc, revenons sur ce que vous disiez à l'instant, Ariane Chemin. Vous êtes donc en effet allée en République tchèque pour votre enquête sur les traces des Kundera. Comment est-ce qu'il est perçu là-bas, désormais ?
Eh bien, ce qui m'a frappée, c'est que quand je suis arrivée à Prague, je me suis dit, bon, je vais faire le Kundera Tour, si je puis dire. Essayer de partir à la recherche de son appartement, de la fameuse FAMU, qui était une sorte de la Fémis tchèque, où des tas de cinéastes prestigieux ont donné des cours, ont été élèves et tout, et rien. Je n'avais aucune trace, aucune plaque, aucun stigmate, aucune indice qui me permettait de remonter la vie de Milan Kundera. C'était très étrange.
Comme s'il avait été effacé à son tour.
Exactement.
Par le régime en place.
Un peu gommé par la démocratie aujourd'hui. Pas tellement présent dans les librairies, même s'il y a une sorte de petit retour, puisque ses livres français maintenant sont traduits en tchèque. J'allais voir des tas de dissidents de l'époque et qu'ils me, avec prudence, montraient que... Voilà, Kundera, c'était pas trop leur tasse de thé, qu'ils avaient considéré que peut-être il avait été peut-être un peu lâche en quittant le pays, en les laissant seuls, hein, avec le régime communiste. Et donc ça, je m'attendais pas à ça, en fait, hein. Et ça, c'était intéressant. Et puis quand j'y étais, il y avait une sorte de petite exposition qui était organisée.
On voit les photos dans votre livre,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, au château de Prague, qui portait justement sur les traductions de Milan Kundera. Et ça, j'avais l'impression tout d'un coup d'être dans un roman de l'écrivain dont j'essayais de raconter des bribes de vie. C'est-à-dire que quand il m'a fallu trouver le dossier des écoutes téléphoniques, par exemple, quelqu'un m'a donné rendez-vous au pied d'un tram en me disant « voilà, vous me reconnaîtrez, j'aurai un pull rouge, prenez une clé USB ». Donc j'avais l'impression
d'être dans un roman d'espionnage.
Exactement. Et quand je suis allée au château, il a fallu que j'aille demander. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer la clé de l'exposition. J'étais seule. Là-dedans, dans cette grande pièce, c'était magnifique. Il faisait très beau, je me souviens. J'étais dans une grande pièce haute de plafond où je voyais tout Prague qui s'étalait sous mes yeux. Et là, le conservateur, vraiment, c'était un livre de Kundera. Le conservateur, charmant, essayait de m'aider. Je voyais qu'ils avaient fait des petites plaques pour essayer le sens en français. Et Milan Kundera, qui est tellement attentif à la moindre virgule, la même faute d'orthographe, le choix du moindre mot, c'était bourré d'erreurs, etc. Je me dis, mais heureusement qu'il n'a pas vu cette exposition. Mais c'est surtout que j'étais seule. Il n'y avait aucun Pragois qui était là avec moi.
Est-ce que cela est dû aussi à la publication de cette biographie de Jan Novák, qui n'est pas très tendre avec Kundera et qui dit qu'il a un peu écrit sa propre légende ?
Alors, le livre de Jan Novák n'était pas encore sorti, mais il y avait déjà été publié un article à charge contre Milan Kundera qui l'accusait d'avoir donné un de ses camarades de jeunesse. Très sincèrement, j'ai regardé avec attention ce livre et les articles qui étaient parus il y a maintenant presque une dizaine d'années qui ont beaucoup atteint Milan Kundera. Et l'essentiel des accusations porte sur le fait que cette personne qui trahit son ami ressemble beaucoup à l'un des héros de Kundera. Or, toute sa vie, Kundera a dit « Je voudrais que vous compreniez que le roman, c'est tout sauf ma vie. » Le roman, c'est créer un monde, créer des personnages, évidemment. On s'imprègne de ce qu'on a vécu, mais le roman, c'est pas ça. Et donc, je pense qu'il a été doublement atteint par ces accusations, sur lequel, d'ailleurs, je ne tirerai pas un trait définitif comme ont pu faire beaucoup d'intellectuels français, parce que quand il a été attaqué comme ça par ses propres compatriotes. En France, une armée d'intellectuels se sont levés, je dirais sans aller voir les documents, pour le défendre. Hein. Ce qui est tout à fait normal, c'est un réflexe d'amitié, mais c'est très français aussi. Hein. Où au fond, peu importe l'enquête, on défend d'abord l'écrivain et on défend d'abord l'ami. Moi, je n'ai pas voulu prendre parti. J'ai raconté son chagrin, sa peine, j'ai raconté les accusations qui étaient portées contre lui. Et je vois bien que ça en fait un personnage, au fond... encore plus romanesque et complexe que je ne l'avais imaginé.
Mais dans ce contexte, comment est-ce qu'on explique que la République tchèque lui ait redonné sa nationalité en 2019 ? Qui a fait le premier pas ?
C'est le paradoxe de Kundera, qui a quand même été le premier et le plus grand des écrivains européens. Hein ? S'il y a quelqu'un qui a défendu l'Europe, c'est quand même bien lui. Il est exactement l'incarnation de cet esprit européen qui dépasse les frontières, de cette Europe qui se fait par les livres, hein, puisque lui a été un lecteur assidu de tout, notamment le Cervantes, de tous les grands écrivains français, et notamment du XVIIIe siècle, puisque c'est son siècle de référence. Et tout d'un coup, il s'est pris finalement d'admiration pour le président tchèque, qui s'appelle Babiš, qui est plutôt un oligarque libéral, pas très européen. Et c'est ça aussi qui donne un côté peut-être un peu tragique à la vie de Milan Kundera, c'est que au fond, c'est ce président tchèque qui lui a donné la nationalité. Et elle lui a été remise dans l'appartement qu'il occupe dans le 7e arrondissement par l'ambassadeur de Tchéquie en France. Et ça paraît assez lunaire, parce que...
Très paradoxal, en effet.
Effectivement, on a l'impression que il a assisté à la naissance de l'Europe après la guerre. Il vit son écroulement et il le vit presque dans sa chair, je dirais, Milan Kundera, ce qui donne encore une dimension supplémentaire d'intérêt à sa personne. Et c'est un autre volet romanesque et politique, je dirais.
Et ce qui témoigne sans doute aussi d'une grande nostalgie, peut-être pour son passé et pour ce pays tel qu'il a été, avec toutes les souffrances que ça a provoquées en lui.
Ça m'a beaucoup touchée, ça, parce que Vera Kundera, en fait, elle pense à la rivière dans laquelle elle se baignait petite toutes les nuits. Milan Kundera, aujourd'hui, il parle sa langue natale. Il a oublié de parler le français. Et je vois bien que c'est un couple déraciné qui, d'une certaine manière, la seule attache qu'ils ont, c'est elle pour lui et lui pour elle. Et j'étais très frappée quand je les croisais dans les rues du 7e arrondissement, c'est qu'ils étaient enlacés comme deux arbres, comme si leur destin était lié à la vie et à la mort. Et il y avait comme une sorte d'apparition physique de ce lien qui est à la fois charnel, évidemment, mais qui est aussi très intellectuel. Et ils sont, c'est comme s'ils se tenaient l'un l'autre pour vivre toutes les vicissitudes de la fin du 20e siècle et du début du 21e.
Il n'a rien publié depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous pensez que Milan Kundera peut à nouveau être en librairie? Est-ce qu'elle vous en a parlé, Vera?
Il a un grand projet, c'est que il va faire revenir à Brno, sa ville natale, des tas d'archives et de livres, et réunir tout ça dans une maison qui sera une sorte de maison Kundera. Et ça, je crois que c'est un de ses grands plaisirs à la fin de sa vie. Ça montre que ça, c'est une démarche qu'ils ont fait ensemble. Et si on découvre un nouveau Kundera, ce sera un inédit, mais elle ne m'en a pas parlé, mais ce ne sera pas un nouveau livre, non.
Vous avez donc fini par lui parler, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Ariane Chemin, au téléphone. Mais néanmoins, cet échange a eu lieu. D'une certaine façon, ce livre, c'est un cadeau d'anniversaire, puisque comme je le disais, il vient de souffler ses 92 bougies. Est-ce que vous lui avez envoyé, j'imagine? Vous n'avez pas encore de retour?
Non, je ne sais pas si c'est un cadeau, parce que encore faut-il qu'il l'apprécie. Mais c'est vrai que c'est en revanche, c'est un hasard, une coïncidence. Et c'est vrai que ça m'a amusée, parce que les livres de Kundera sont bourrés de hasards et de coïncidences. Et il a lui-même beaucoup insisté sur le jour de son anniversaire, lui qui aimait tellement les plaisanteries, c'est l'un de ses livres. Et il disait être né un 1er avril, il y a forcément une incidence très grande dans ma vie, peut-être même métaphysique, disait-il.
En tout cas, littéraire certainement. Merci beaucoup, Ariane Chemin, d'être venue au micro de RFI partager avec nous ce livre, et puis d'avoir levé un peu le voile de ce mystère Kundera. On le referme avec vous, on le laisse un peu dans son intimité, mais on était vraiment très heureux de lire ce parcours et de voir là où vous étiez allé sur ces traces, et d'imaginer un peu cette si belle silhouette qui nous fait rêver. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre, À la recherche de Milan Kundera, d'Ariane Chemin, paru aux éditions du Sous-Sol.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
C'est pas du vent.